Vous êtes sur RTL.
Il est 9h. Et ce matin, Agnès Bonfillon, Philippe Robuchon.
Bonjour Agnès.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
8000 tonnes de denrées alimentaires, voilà ce qu'espèrent récolter les Restos du Cœur cette année.
Jusqu'à ce soir, vous pouvez participer à la grande collecte nationale, notamment dans les supermarchés. Ensuite, eh bien, les produits sont redistribués aux plus démunis. Souvent, ça se passe dans des locaux de l'association, mais pas toujours. Dans le Cantal, par exemple, un camion des Restos du Cœur va de village en village à la rencontre des bénéficiaires. Écoutez le reportage de Guillaume Frixon.
Les pâtes et le riz, je n'en veux pas. Gardez-les pour d'autres personnes parce que j'en ai encore de ce que vous m'avez donné.
Robert est retraité. Jusqu'à présent, il devait rouler par tous les temps avec son scooter jusqu'au centre des Restos du Cœur à Aurillac, 30 km aller-retour. Mais aujourd'hui, il vient à pied jusqu'au camion garé derrière la salle municipale de son village.
Vous voyez, je suis impatient de les voir. Je viens de bonne heure, je les attends. On vit tous dans cette petite misère qu'il y a. Et quand on les voit arriver, eh ben, c'est comme un rayon de soleil, quoi.
Et dans le camion, Michel, bénévole depuis 7 ans, multiplie les attentions, les sourires, les petits mots pour chaque bénéficiaire.
Tiens, je vous ai gardé un pot de crème. Je sais que vous êtes gourmand, hein. Vous voyez ?
Une heure plus tard, direction à présent un autre village, à Saint-Cernin. Une dizaine de personnes guettent l'arrivée du camion, impatientes et soulagées.
Moi, je trouve que c'est bien parce que j'ai pas de voiture, alors ça m'arrange bien, ça me dépanne bien.
C'est chaleureux, puis hein, on est écouté.
Ça fait du bien.
Oui.
Et avec leur camion banalisé, les Restos du Cœur misent sur une distribution discrète, histoire d'inciter les plus démunis à venir demander de l'aide sans avoir l'appréhension d'être jugés par les autres habitants du village.
Le reportage de Guillaume Frixon pour RTL. Et n'oubliez pas donc la grande collecte des Restos du Cœur jusqu'à ce soir. Après les petits villages du Cantal, restons dans le milieu rural.
Depuis le début de la semaine, oui, en effet, jusqu'à mercredi prochain, RTL vous emmène chaque matin sur la route du grand débat.
Les reporters de RTL sillonnent la France pour illustrer les grandes thématiques qui ressortent des échanges. Aujourd'hui, nous parlons de la lutte contre l'exode rural. Le maire de Saint-Pierre-de-Frugy, en Dordogne, ne se contente pas de retenir les habitants. Son but est d'en attirer, Philippe de Maria.
Alors du laitier, le pain est livré à domicile dans les rues en pente de Saint-Pierre-de-Frugy qui serpente entre de belles maisons périgourdines récemment rénovées.
C'est le pain du vendredi. Là, on a la brioche pour les enfants et le pain pour nous.
Laureline, les bras chargés de pain frais, a changé de cadre de vie il y a 2 ans avec Mickaël et leurs 3 enfants. Venus de Toulouse, ils cherchent alors une école Montessori qui prône l'autonomie de l'enfant.
On est tombé par hasard sur un article qui parlait de Saint-Pierre, qui parlait de l'école, mais aussi de la boutique, de l'éco-centre. Donc c'est l'ensemble qui nous a attirés.
Ce qui change, je pense, c'est dès qu'il fait beau et qu'on sort, on a l'impression d'être en vacances, quoi.
Bah, on fait du développement informatique.
On est salarié dans une entreprise compatible télétravailleur.
Saint-Pierre-de-Frugy est devenu attractif par la volonté de son maire, Gilbert Chabot.
Je crois qu'on a essayé de travailler sur l'environnement, c'est-à-dire créer un environnement sain, en supprimant tous les intrants depuis maintenant 7-8 ans, en végétalisant le centre-bourg, en créant un jardin pédagogique.
Et pourtant, quand il est élu, le village est moribond.
Il n'y a plus de commerce, plus de bars, pas d'école, fermée depuis 1 an. L'école, c'est déterminant. On dit qu'un village sans école est un village sans âme. Tout le monde me le disait, mais je l'ai vérifié, oui.
Depuis, Saint-Pierre-de-Frugy accueille 90 nouveaux habitants. Une école a donc ouvert ses portes, le restaurant est relancé et 2 médecins souhaitent poser leur sacoche dans ce petit bout de paradis en Périgord.
Le reportage de Philippe de Maria à Saint-Pierre-de-Frugy, en Dordogne. Tous les reportages de la route du Grand Débat, je vous le rappelle, sont disponibles sur notre site rtl.fr. Pour la 17e semaine consécutive, des rassemblements de gilets jaunes sont prévus un peu partout en France. Cette fois, c'est le Puy-en-Velay qui sera la ville de ralliement. Hier à Paris, le sit-in prévu au Champ de Mars a tourné court. Très peu de personnes ont répondu présent. Le mouvement de grève des douaniers se poursuit à Calais et à Dunkerque pour réclamer des moyens supplémentaires en vue du Brexit. Le conflit pourrait s'étendre dès aujourd'hui aux aéroports de Paris et entraîner des perturbations. Les routes en cette fin de vacances de février, trafic dense à prévoir en Auvergne-Rhône-Alpes. La journée est classée orange dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours.
Une petite pause et dans un instant, le meurtre mystérieux d'une Française à Londres.
RTL 9h06, suite de RTL Matin, Agnès Bonfillon, Philippe Robuchon.
En Angleterre, l'ouverture d'une enquête, Agnès, après le meurtre d'une Française à Londres.
Le corps de la jeune femme a été retrouvé dans un jardin de la capitale. Elle vivait là-bas depuis de nombreuses années. Et Scotland Yard explore plusieurs pistes, tente de retracer les derniers moments de la victime, Marie Billon.
Et oui, c'est lorsque ses collègues de travail ne l'ont pas vu arriver lundi dernier qu'ils ont appelé la police. Laureline Garcia-Berthaud était employée dans une agence de communication. Elle tenait aussi un blog sur la mode. La jeune femme avait eu une année difficile sur le plan personnel après s'être séparée de son petit ami. Mais depuis quelque temps, elle utilisait régulièrement plusieurs applications et sites de rencontres. La police s'intéresserait donc aux personnes avec qui elle aurait pu entrer en contact par ce biais. On en sait peu, en fait, des derniers jours de la Française. Elle a été vue pour la dernière fois le week-end dernier, samedi soir, devant un magasin de son quartier. Dimanche, elle avait un rendez-vous galant avec un homme qu'elle avait récemment rencontré en faisant du shopping. On ne sait pas si elle est allée à ce rendez-vous ou bien si elle était déjà morte. Ce n'est que mercredi que son corps a été retrouvé dans le jardin de sa résidence. Elle occupait un appartement du rez-de-chaussée. La police scientifique a érigé une tente sur la pelouse pour prélever les indices utiles à l'enquête. Une autopsie doit aussi être effectuée, mais selon la presse anglaise, même si le corps n'a pas été formellement identifié, la famille de la jeune femme a été informée et serait déjà arrivée à Londres.
Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. Procédure accélérée pour la béatification du père Hamel. L'enquête du diocèse doit être clôturée aujourd'hui. Le pape François a souhaité que les choses aillent vite pour ce prêtre assassiné en 2016 par deux terroristes de Daesh à Saint-Étienne-du-Rouvray.
Semaine après semaine, la colère enfle en Algérie.
Alors même si tout se passe dans le calme pour l'instant, ils sont de plus en plus nombreux à descendre dans la rue pour dire non, non à un cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Hier, les rues d'Alger étaient noires de monde, un moment historique pour beaucoup. En France, la communauté algérienne se mobilise aussi. À Paris, au Trocadéro, plusieurs centaines de personnes se sont réunies, Lucas Minassian.
On n'a pas de président, mais un cadre et une photo. Même à des milliers de kilomètres de l'Algérie, les manifestants rejettent le cinquième mandat d'un président malade. Hakim, finalement, n'en veut même pas à Bouteflika. Selon lui, il ne sait pas qu'il est candidat.
C'est une marionnette. Derrière lui, il y a tout un système, toute une mafia qui se sert de la maladie du président, de sa incapacité à gérer, à diriger, à décider, à faire quoi que ce soit pour fructifier ses affaires. On ne sait pas s'il est encore en vie ou il est mort.
Un président soigné, cloîtré, depuis plusieurs jours dans une chambre d'un hôpital à Genève.
Les malades, elle est où ? C'est qui maintenant qui dirige ? C'est la mafia, c'est pas Bouteflika. Nous sommes pas contre Bouteflika, nous sommes contre le système.
Un système composé des frères de Bouteflika, d'hommes d'affaires. D'après Faïza, c'est eux qui tirent les ficelles depuis plusieurs années.
C'est devenu vraiment une petite société de mafieux, quoi. C'est toujours eux les privilégiés. Eux d'abord, ils nous donnent des miettes ou alors ils nous donnent pas du tout. Le slogan populaire en Algérie, c'est « Menachab wa Enachab », ça veut dire « du peuple au peuple ».
Loin de l'Algérie, mais mobilisé, certains manifestants ont prévu de faire le voyage dans les prochains jours afin de gonfler les rangs dans les rues d'Alger.
Le reportage de Lucas Minassian pour RTL. Le Venezuela, toujours paralysé par une panne d'électricité géante. Le chef de l'État, Nicolas Maduro, et le président autoproclamé Juan Guaido se rendent mutuellement responsables. Vols annulés, hôpitaux ralentis, pillages. Les conséquences sont catastrophiques.
Et à 9h09, on passe au sport, Philippe.
Oui, les footballeuses américaines attaquent leur fédération pour discrimination.
À 3 mois du mondial, elles ont profité de la Journée internationale des droits de la femme pour relancer les hostilités. Ce n'est pas la première fois qu'elles reprochent aux instances des inégalités. Et on ne parle pas que de salaire, Philippe Corbet.
Oui, elles sont championnes du monde en titre. Elles font honneur au maillot national avec 3 étoiles pour 3 Coupes du Monde gagnées, plus 4 médailles d'or olympiques. C'est l'une des équipes les plus récompensées de l'histoire du sport américain. Certaines de ces joueuses sont devenues des célébrités dans un pays où le football, qu'on appelle ici le soccer, est l'un des sports les plus pratiqués par les jeunes filles. Et pourtant, les 28 joueuses qui ont engagé depuis des années un bras de fer pour obtenir de meilleures rémunérations attaquent maintenant en justice leur fédération pour discrimination sexuelle institutionnalisée. Selon ces footballeuses, non seulement elles touchent à peine 38% des primes des joueurs de l'équipe nationale masculine au palmarès bien plus maigre, mais leurs conditions d'entraînement, de transport, d'encadrement médical sont bien moins avantageuses. Elles ont déjà obtenu de ne plus jouer sur des surfaces artificielles et de ne plus prendre de vols commerciaux pour se rendre au match de compétition, mais elles veulent faire de cette bataille un exemple, au-delà du sport, des discriminations hommes-femmes dans le monde du travail.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Le foot hexagonal maintenant. maintenant au programme de la 28e journée de Ligue 1. Strasbourg-Lyon, c'est à 17h. Puis dans la soirée, Amiens-Nîmes, Dijon-Reims et Monaco-Bordeaux. Des rencontres à vivre dans le multiplex RTL L'Équipe de 19h30 à 23h avec Christian Olivier et Didier Roustan. Et puis en rugby, le 15 de France s'est envolé pour Dublin, suite du tournoi des 6 nations ce week-end. Ce sont les dames qui ouvrent le bal ce soir. Les hommes, eux, jouent demain. Ce sera à 16h, Philippe.
C'est noté, Agnès. Merci beaucoup et à demain.
À demain.